Bonjour Virginie,
Bonjour Mathilde.
je suis très heureuse d'échanger avec vous aujourd'hui suite à l'enregistrement de votre 10e roman Plus grand que le ciel en livre audio dans la collection Écoutez lire. Alors amis auditeurs, spoiler alerte, si vous n'avez pas lu ou écouté le livre, n'écoutez pas cette interview. Mais revenez plus tard pour entendre ce que Virginie a à vous raconter de plus. Virginie, vous publiez votre 10e roman, vous rencontrez un succès phénoménal, vos lectrices, vos lecteurs vous sont fidèles. Ça vous fait quoi? C'est une sacrée responsabilité?
Je n'y pense pas tous les jours. J'y suis pas confrontée tous les jours. Je m'en rends compte quand je rencontre mes lecteurs lors des salons ou même dans la rue. Et quand on m'envoie des chiffres, des articles, là je me dis waouh, c'est quelque chose de vraiment, c'est vertigineux de me dire qu'il y a autant de personnes qui lisent les histoires qui sortent de ma tête. C'est ça qui compte pour moi. J'imagine les individus derrière les nombres. Et une responsabilité, en tout cas, je n'y pense pas pendant l'écriture. C'est-à-dire que j'ai toujours peur de décevoir à la sortie d'un nouveau roman. Je me demande toujours avec appréhension comment il va être reçu par les lectrices et les lecteurs qui sont impatients et qui me font part de leur impatience. Mais pendant que j'écris et au moment où l'idée s'agrippe dans ma tête, j'y pense pas du tout. Je pense à l'histoire que j'ai envie d'écrire, donc je ne me mets pas cette pression-là sur les épaules, et donc je ne considère pas ça comme une responsabilité. Évidemment, il y a comme un pacte entre les lecteurs et les auteurs, mais en tout cas, voilà, je crois que la responsabilité que j'ai, c'est d'écrire des histoires que j'ai envie d'écrire, et en espérant qu'elles iront plaire aux lecteurs.
Oui, c'est vrai. Et c'est une vraie chance, en tout cas, d'être lu, de pouvoir aussi vivre de sa
Ah mais
plume,
complètement,
de...
c'est un luxe immense de pouvoir réaliser déjà son rêve de petite fille et de pouvoir se lever le matin, faire ce qu'on aime. Et la chance, la grande chance dans tout ça aussi, c'est de se sentir à sa place. Je me suis souvent sentie un peu à côté. Pendant l'adolescence, j'étais cette fille un peu submergée par sa sensibilité, donc je me sentais un peu différente des autres. Et je me demandais si j'étais la seule, et on ne parle pas tellement de ces choses-là, de ces angoisses. En écrivant et en ayant le retour des lectrices, des lecteurs, je me rends compte que je suis loin d'être seule à ressentir tout ça. Et ça, je crois que c'est vraiment ce qui m'apporte le plus dans cette aventure, c'est de me sentir déjà pas seule et à ma place. Ça, c'est vraiment le plus grand luxe, je trouve, dans cette histoire-là.
C'est beau, c'est cette histoire finalement individuelle qui est dans votre tête et qui devient presque
Ouais.
universelle, qui
Oui,
s'ouvre aux
c'est vrai que
autres.
souvent on me dit vous parlez de ma vie, alors que je parle de la mienne, de la mienne, de ce qui m'entoure, de ce que je ressens, et en fait l'intime est très universel.
C'est très beau et souvent on pose cette question aux autrices ou aux auteurs, mais je vous la pose volontiers. Est-ce que quelqu'un vous a transmis cette passion? Vous dites que depuis jeune, depuis petite, vous écrivez, mais cette passion de l'écriture, est-ce que quelqu'un vous l'a transmise, cet amour des livres, le plaisir des mots, de construire les phrases, de choisir le bon mot, ou alors vous êtes tombé dedans par hasard?
Oui, non, j'ai une famille qui lit et qui écrit. Ma mère écrivait, j'ai retrouvé des mots qu'elle écrivait, des poèmes qu'elle écrivait à mon père sur des 33 tours, sur des pochettes de 33 tours. Et puis, très, très petite, elle a commencé à me lire une histoire tous les soirs. On allait acheter les livres ensemble et donc c'était un rituel. Donc, il n'y avait pas énormément de livres chez moi, mais en tout cas, il y avait assez de livres pour que j'aie mon histoire tous les soirs et c'était quelque chose d'important pour elle. Et après, quand j'ai su lire, c'est chez ma grand-mère que j'ai compris la puissance des mots, puisque ma grand-mère écrivait et écrit toujours d'ailleurs des poèmes. Elle avait des cahiers de poèmes. Et tous les mercredis après-midi, quand elle me gardait, je me plongeais dedans et je pouvais passer des heures à lire ses poèmes et qui parlent vraiment des gens qu'elle aime, des sujets de société qui la révoltent ou qui la touchent. Et j'ai compris le pouvoir des mots à ce moment-là. Et vraiment, je me souviens toute petite de moi qui disais à la maîtresse que je voulais écrire des livres. Donc ça s'est implanté à ce moment-là.
On sent la transmission,
Oui.
la filiation, le lien, hein. C'est vrai que souvent dans les textes, dans l'écriture, on recherche ça. Et vous parlez des histoires que votre maman vous racontait petite. Quels sont les livres qui vous ont vraiment donné envie d'écrire? Des livres un peu choc, des livres clés dans votre parcours et pour lesquels, en les lisant, vous êtes dit, je veux faire ça quand je serai grande.
Alors, ça a été vraiment enfant, donc c'était les livres, ça a été d'abord les albums. Ensuite, il y a eu Cro-Blanc, je me souviens d'un de mes premiers livres que j'avais lu, c'était Cro-Blanc. Il y avait toute la bibliothèque rose, la bibliothèque verte. Et puis ensuite, ça a été jeune adulte, quand je me suis dit, OK, je m'y mets. C'est un livre de Helen Fielding, qui était le journal de Bridget Jones. Parce que jusque-là, je lisais surtout des livres très émouvants, souvent des histoires vraies. Enfin, voilà. Je lisais un petit peu tout ce qui me tombait sous la main. Je lisais énormément. Et ce livre-là, j'ai ri aux éclats. Et j'ai trouvé ça, c'est un super pouvoir de faire rire en écrivant. Et je me suis dit, je veux faire ça. Et ça a vraiment donné, je crois, le ton de mon écriture. Ce livre-là, il a été déterminant. C'est pas, je dirais pas que c'est un de mes livres préférés, mais en tout cas. C'est le livre qui m'a fait rire. Et puis, il y avait eu aussi La vie devant soi de Romain Gary, qui est encore aujourd'hui un de mes livres favoris. Et pareil, où on alterne avec les émotions. On parle de sujets forts, mais il y a aussi de l'humour, de la légèreté. Et c'est ce genre de livre qui m'a donné envie de m'y mettre vraiment.
Alors, on va parler un petit peu plus de vous, justement, en tant qu'écrivain, en tant qu'autrice. Est-ce que vous avez. Co comment commence une histoire avec vous? Vous avez des routines d'écriture? Vous avez toujours un petit carnet sur vous? Ou alors, c'est votre appli de dictaphone qui est votre meilleur ami? Comment vous faites?
Alors c'est un peu tout ça, le problème étant que je suis un peu éparpillée, donc j'ai plusieurs carnets, j'écris un peu sur tout ce qui me tombe sous la main, je dicte, j'ai des notes dans mon téléphone, voilà, et je m'en sers en plus pas forcément. Mais le processus, il est toujours assez similaire, c'est-à-dire que à chaque fois que je termine l'écriture d'un livre, je me dis j'ai tout dit, c'est terminé, j'ai plus d'inspiration, j'ai plus rien à raconter, et j'en suis persuadée. Et très rapidement, on va dire 2 mois plus tard, bim, j'ai une idée qui arrive et qui me surprend moi-même. Et c'est toujours inspiré de quelque chose qui me touche, quelque chose dont je suis témoin ou quelque chose que je vis. Et voilà, et l'idée, sans même que je le cherche, commence à se développer dans ma tête, l'histoire commence à se raconter, les personnages s'installe et un jour je me dis ok, il faut que je m'y mette et j'ouvre l'ordinateur et ça jaillit et voilà, j'ai pas de plan, j'écris sans savoir ce que je vais écrire chaque jour. Quand j'ouvre l'ordinateur, c'est un peu le brouillard et puis tout à coup ça se lève. Alors ça peut mettre 1 minute comme 40 minutes. Il m'arrive de fixer mon écran et de me dire qu'est-ce que j'écris aujourd'hui et puis voilà. Et parfois ça vient tout de suite. Et voilà, et je suis mon inspiration, je suis mes émotions. Et d'ailleurs, quand on me connaît, on le ressent. Les jours où je suis plus en forme, on peut savoir que j'ai écrit tel chapitre ou telle partie. Les jours où je suis moins bien, on va reconnaître que là, j'ai écrit cette partie-là. Et voilà, et l'inspiration, elle me vient vraiment, c'est toujours des sujets très personnels. Mais mes livres sont réellement des fictions. Donc, je me cache derrière plein de fictions. Donc, il y a des petits bouts de moi et il y a plein de choses aussi qui viennent juste de mon imagination et qui y arrivent de je ne sais où.
Et du coup, on peut entrer un peu plus dans Plus grand que le ciel, ce dixième roman. Avant qu'on découvre les personnages, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur le titre de ce livre? Qu'est-ce qu'il évoque pour vous? D'où est-ce qu'il vient?
Alors c'est la première fois que le titre arrive si tard. Habituellement, soit je l'ai avant même l'écriture du livre, soit ça arrive pendant l'écriture. Il y a une phrase qui ressort, je me dis tiens, ça c'est le titre. Et là, celui-ci, il est arrivé après avoir terminé l'écriture. Bah, il me semblait cohérent, mais pour moi, il a plusieurs significations et il peut avoir plusieurs significations. Et j'aime bien laisser au lecteur la chance de se l'approprier. J'aime bien quand on referme un livre et que tout à coup, le titre, il prend sens. Et j'aimerais que celui-là, les lecteurs choisissent le sens qu'ils veulent lui donner. Pour moi, je crois que ça parle d'amour, de l'infinité de l'amour, des amours qu'on peut porter à une personne qu'on aime, à un parent, à un enfant, voilà.
L'immensité.
Exactement.
Dans Plus grand que le ciel, on rencontre Elsa qui rencontre Vincent. Ça commence dans la salle d'attente d'un psy et ça vous permet d'entrer au cœur de leur questionnement à cette femme et cet homme qui sont des quarantenaires à un moment assez précis de leur vie chacun. Vous pouvez nous les présenter?
Oui, alors bah, les deux sont donc ils sont dans la quarantaine. Les deux sont seuls, célibataires au moment où ils se rencontrent. Et les deux ont vécu un événement traumatisant qui les amène ici chez ce psy. Et d'ailleurs, les deux ont aussi ce point commun de ne pas du tout avoir envie de faire une thérapie et d'y être un peu contraints. Et ils ont des caractères. Alors Elsa, elle travaille dans une agence de pompes funèbres. Elle élève son fils adolescent, Tristan. Et puis elle vient de perdre son papa. Et ça la rend un petit peu revêche. C'est-à-dire qu'elle n'a pas envie qu'on la dérange. Elle a envie de rester dans son chagrin. Et elle a surtout pas envie qu'on la dérange dans la salle d'attente de son psy. Ce qui rend leur première rencontre. C'est assez savoureuse.
Cocasse.
Et lui, eh ben, c'est un écrivain, bizarrement, qui est un petit peu dépassé par son succès, qui a vécu bah, aussi, on le sait maintenant, qui a perdu le premier amour de sa vie, qui a ses filles une semaine sur deux et qui est un petit peu. Perdu, en tout cas, qui n'arrive pas à s'engager dans une relation. Voilà. J'avais envie d'être écorchée, qui ont un immense besoin de douceur. J'avais envie de tendresse dans ce livre. Et j'avais envie qu'ils se donnent cette tendresse-là. J'avais envie qu'ils soient gentils. C'est terrible, mais j'ai l'impression que c'est devenu un mot hyper galvaudé et que la gentillesse n'est plus une qualité, mais presque un défaut dont on se moque. Et j'avais envie que la gentillesse de l'un envers l'autre. Les répare. Voilà. Parce que moi, quand je vais mal, quand je vis des épreuves, c'est la gentillesse des autres qui me répare. Voilà. Donc, je trouvais que cette rencontre leur apportait cette douceur-là.
C'est vrai que chacun, on sent qu'ils ont envie de rester dans leur petite bulle de protection et en même temps qu'ils sont au moment où ils peuvent aller peut-être vers quelqu'un d'autre. Il se trouve que c'est lui, il se trouve que c'est elle à ce moment-là, mais donc ils se réouvrent en fait,
Oui.
ils s'autorisent ce moment plus doux.
Pas tout de suite.
Pas tout de suite,
Spoiler.
mais ils y viennent, ils y
Mais ils y
viennent.
viennent. Il leur faut un certain temps et y a ce n'est pas tout de suite le moment, en tout cas. Mais
On sent que c'est là, mais
oui.
que c'est trop fragile au début. Comment composez-vous vos personnages? Quelles sont vos sources d'inspiration? Qui sont vos sources d'inspiration? On a toujours l'impression que quelqu'un se cache derrière les personnages. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai?
C'est toujours difficile d'expliquer d'où vient l'inspiration et comment se composent ces personnages. J'ai vraiment le sentiment qu'ils arrivent, ils existent déjà. Je crois que ça ne m'est jamais arrivé de me dire, tiens, je vais utiliser ce que m'a dit une amie ou ce que m'a raconté un proche pour composer des personnages. Donc, je pense que je suis une éponge, j'absorbe pas mal de choses. Donc, ça travaille comme ça à l'intérieur de moi et ça ressort dans des personnages qui existent déjà. Mais j'ai pas l'impression de les composer. Après, bah oui, de fait, je les compose, mais je ne sais pas tellement d'où ça vient. Je sais que dans chaque personnage, ou dans quasiment chaque personnage de mes livres, et plus encore dans celui dernier, il y a de moi, il y a beaucoup de moi, mais pas que, il y a plein de choses qui ne me ressemblent absolument pas, et je ne sais pas tellement d'où ça vient. Je pense que c'est de... J'ai pas l'impression non plus d'être très observatrice. Souvent, on me dit, t'as pas remarqué que j'ai changé de coupe de cheveux? Ben non. Tu te souviens la robe que je portais l'autre jour? Non, je me souviens pas. Donc, je suis pas très observatrice. Et pour autant, j'absorbe beaucoup de choses. Et voilà, ça crée des personnages.
Ça reste de la fiction, en fait. C'est ça qui est intéressant
Oui.
aussi, c'est que ces personnages-là, ils sont tout le monde est personne, ils sont fictifs et chacun peut peut-être s'identifier par
S'identifier,
moment à
oui.
certains
Oui.
traits de caractère, certains
Oui, c'est ça.
vécus.
C'est de la fiction. Mais j'ai tellement l'impression qu'ils existent qu'à chaque fois, je me dis, personne ne va s'y retrouver, personne va. Enfin, ça va intéresser personne, ça va toucher personne. Et à chaque fois, je suis surprise de voir que on arrive toujours à trouver un petit truc qui nous ressemble finalement, comme si on se ressemblait tous. Et si c'était le cas? Mais oui, pour moi, c'est important de dire que c'est de la fiction parce que y a des lecteurs parfois qui me demandent si j'ai vécu tout ça. Alors je dis, bah non, heureusement que j'ai pas vécu tout ce que je raconte dans mes livres. Et il y a beaucoup de choses qui viennent de l'imagination, de l'inspiration. Mais oui, y a beaucoup de moi. Et là, alors dans le personnage de Vincent, qui est écrivain, évidemment, j'ai pu puiser dans ma propre expérience, même si y a des différences avec mes façons de faire et mes ressentis. C'est un personnage à part entière, mais je me suis beaucoup inspirée de mon expérience et de mon vécu, et de ma relation au lecteur, de ma relation à l'écriture. Tout ça a été une source d'inspiration. J'ai l'impression que je pouvais écrire encore très longtemps sur ce sujet-là. Donc, il n'est pas exclu qu'un jour on retrouve un écrivain dans un autre livre. Et puis oui, alors pour Elsa, les passages qui concernent le père, là pour le coup, sont directement inspirés de ce que je ressentais, en tout cas au moment où j'écrivais. C'est vrai que j'étais dans ce processus de chagrin, de deuil, et ça a été un petit peu cathartique d'écrire ce livre.
Ça fait partie des étapes de la vie
Oui.
qui aident certainement aussi vos lectrices et vos lecteurs. C'est pour ça qu'ils vous aiment. On va bifurquer un petit peu vers le livre audio. Les auditeurs, les lecteurs qui nous écoutent ont écouté ce livre dans sa version audio, sa version enregistrée. Ça vous fait quoi d'entendre vos textes lus, incarnés par des voix, j'allais dire en chair et en os, finalement, des comédiens qui donnent vie à vos personnages? Pourquoi est-ce que c'est important pour vous que vos textes existent en version audio?
Ça m'émeut énormément, sans doute plus que ça ne le devrait, mais de me dire à chaque fois que j'entends des comédiens lire les mots qui sortent de mon imagination, c'est vraiment une grande émotion. J'ai l'impression que mes personnages prennent vie. C'est important parce que justement, c'est un autre objet, déjà qui permet à des personnes qui n'aiment pas forcément lire ou qui n'ont pas la possibilité de lire. Je pense aussi à toutes les personnes qui ne voient pas bien ou qui n'ont pas le temps de lire et qui peuvent lire. J'ai énormément d'amis qui lisent en voiture, qui lisent en balade, qui lisent en faisant le ménage, en faisant à manger. Enfin, c'est vraiment un moyen de lecture formidable. Et donc pour moi, c'est important pour ça et aussi à titre très égoïste, parce que c'est très émouvant d'entendre les personnages prendre vie comme ça. Et en plus, les comédiens sont toujours super bien choisis. Là, en l'occurrence, je suis ravie du casting et qu'ils correspondent tout à fait à ce que j'imaginais.
Et oui, parce que Jean-Pierre Michaël est donc la voix française de Brad
Et oui.
Pitt. Il incarne
Ce
Vincent.
qui n'est pas pour nous déplaire.
Et avec Alison Paradis
Oui.
et Élodie Huber, ils
Ouais.
font vraiment un très beau trio,
Ouais.
en effet, qui.
Oui, je suis très très contente de ce casting et je trouve que ça colle parfaitement au personnage.
Ben nous, on est ravis d'avoir pu une nouvelle fois
Merci.
faire ce livre audio avec vous. Pour finir, Virginie, pourriez-vous nous conseiller deux ou trois livres qui, pour vous, sont des incontournables, les coups de cœur de Virginie? On a parlé de Romain Gary,
Oui,
bien
j'aimerais
sûr.
bien conseiller des livres de femmes, mais malheureusement, les livres que j'offre le plus souvent et que je conseille le plus souvent, ce sont des livres écrits par des hommes. Donc il y a Romain Gary, La vie devant soi, qui est vraiment. Alors je l'ai offert à tout le monde autour de moi. Plus récemment, il y a eu. C'est Henri Lovenbruck qui a écrit Nous rêvions juste de liberté, qui est un chef-d'œuvre. Vraiment, ne lisez pas la quatrième de couverture parce que si je l'avais lu, je n'aurais pas lu le livre et je serais passée à côté d'un grand livre. En tout cas,
Intéressant.
elle ne m'attirait pas forcément et vraiment, je l'ai offert à tout le monde et tout le monde l'a adoré. Et Pat Conroy, Le Prince des Marais, pareil, qui est un immense coup de cœur et que j'offre à tour de bras. Mais sinon, j'aimerais vraiment trouver des femmes. Mais je vais parler des copines.
Oui.
J'ai des amies qui écrivent. Il y a Sophie Rouvier, Serena Giuliano, il y a Marie Vareille. Voilà, et ce sont des livres formidables que je conseille à tout le monde et que j'offre beaucoup aussi.
Merci beaucoup, Virginie. Une petite
Merci à
interview
vous.
flash?
Allez.
Allez, une petite interview flash. Vous répondez sans réfléchir.
OK.
Virginie, vous êtes plutôt matin ou soir?
Soir. J'écris. Non, je peux développer ou
Allez, on
non?
développe.
Ouais. J'écris souvent la nuit, une partie de la nuit, et donc le matin, je me lève pour emmener mes enfants à l'école, et après, je me recouche, je finis ma nuit, je rajoute 2 heures aux 5 heures que j'ai dormi.
Chocolat au lait ou chocolat noir?
Au lait.
Brunch ou flunch?
Oh, j'ai de bons souvenirs d'enfance chez Flunch.
Ordi ou papier?
Oh, les deux. J'écris sur ordi, mais je prends des notes sur papier.
Mer ou montagne?
Ah, les deux aussi, mais océan.
Cuir ou doudoune?
Ah, j'essaye d'éviter le cuir de plus en plus. Donc, on va dire doudoune, mais sans plume, sans
Sans plume
plume
de vraie oie.
de vrai oie, exactement.
Thriller ou romance?
Bah, aucun des deux. Enfin, ou les deux. Je lis absolument tout. Ouais, je lis de tout. Donc, suivant mes envies.
Anatomy ou Urgence?
J'ai commencé les deux séries, mais je suis hypocondriaque, donc il a fallu que j'arrête assez vite. Sinon, je passais mon temps aux urgences.
Et Brad Pitt, alors, plutôt dans Légende d'automne ou Fight Club?
Ah, bah, Légende d'automne. Ah, vraiment, Tristan dans Légende. D'ailleurs, il y a un Tristan dans le livre.
Oui, c'est
C'est pas
vrai.
fait exprès, mais ouais.
C'est vrai. Bon, en tout cas, vous êtes 100% forte à ce jeu-là.
Merci.
Merci beaucoup, un immense merci
Je peux
pour cet
rajouter quelque
échange, bien
chose?
sûr.
Pardon, j'ai oublié un livre qu'il faut absolument que je
Ah,
conseille parce qu'il
parfait.
est extraordinaire. C'est Baptiste Beaulieu, Où vont les larmes quand elles sèchent. Vraiment, il est sublime et c'est
J'ai lu
pas. Ouais,
aussi.
il est beau, hein?
Très
Ouais,
beau.
voilà.
Très beau. Encore un homme, ceci
Encore un
dit,
homme,
mais
mais qui mérite d'être lu.
qui est vraiment un très bel auteur. Merci beaucoup de votre sincérité immuable
Merci
et
beaucoup.
à très bientôt pour de nouvelles aventures.
Allez.